RFI et France 24 présentent. Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce Café des Sports hebdomadaire, notre rendez-vous de fin de semaine, vous en avez pris l'habitude. Et en plus, c'est un rendez-vous qui se situe cette fois au seuil d'une nouvelle compétition. Une compétition inventée par la FIFA qui se déroulera aux États-Unis, qui commence dans quelques heures et dont nous allons vous parler avec nos invités du jour et évidemment notamment notre duo de choc. Bonjour Xavier Barret.
Bonjour Annie, nouvelle compétition mais vieux duel.
Oui, exactement.
Bonjour
ça,
à tous.
Mais je crois que nos auditeurs ne s'en lassent pas et ça c'est intéressant. Bonjour Emile Ngono.
Comment y a-t-il duel lorsque un est déjà KO? Est-ce que le ça Barça commence. Est dans la compétition? Non.
Ah oui, alors, ça c'est vrai que... Oh, mais il va trouver un autre
par
cheval.
Par incompétence, voilà.
C'est je pense qu'il aimera voilà. Manchester City par transposition, on va dire.
Hein? Oui.
Le transfert de sentiments. Ça.
Sans consultant caméléonesque.
un terme de psychanalyse, ça. Le transfert. Alors, un élégant Sénégalais aujourd'hui, mais je crois comprendre pourquoi. Bonjour Yoro.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Bah oui, on a battu
notre ami Yoro Mangara. Et oui, il est tout content. C'était pas une manita, mais ça valait le coup. Et puis, Frédéric Suto, il est là aujourd'hui. Il a abandonné sa petite balle jaune. Bonjour
Frédéric. Oui, je fais un transfert, moi aussi, parfois, du foot au tennis.
Ah, oui, bah oui. Hein, chacun va vers ses amours, parfois, puis revient à la maison.
On est là au bercail. Les premiers messages, les auditeurs, Abdoulaye Diallo, bonjour à toute l'équipe du Café des Sports, Lamisco qui nous parle de CR7, non pas de chance, il n'est pas là. Hein.
Ah non, il ne sera pas non
il
plus.
Il ne sera pas là, bonjour Xavier, bonjour Rémi, il y en a pour tout le monde.
Ouais, bon. Et bien justement, dans les débats du jour, vous allez voir, nous avons plein de choses à vous raconter autour de ce coup d'envoi de la Coupe du Monde des clubs. 32 équipes venues de tous les continents prêtes à disputer un trophée tout neuf en territoire américain. Mais toutes ces équipes ont-elles la même motivation? On attend une pléiade de stars et certaines auront le Ballon d'Or 2025 en tête. Premier match entre l'Inter de Miami, l'Inter de Lionel Messi et le Al Ahly du Caire, club égyptien. Show must go on. Du Sky Blue au Gli Azzurri, le citizen Kevin De Bruyne quitte Manchester City pour devenir napolitain, mais toujours au maillot bleu ciel. Et pour perpétuer surtout une histoire belge au pied du Vésuve, avanti Kevin. Et puis bien sûr, il y aura les cartons, les vôtres et les nôtres, sélectionnés par David Finzel. Au générique de cette émission, justement David qui m'a aidé à préparer l'émission avec Alice Ménard. Et pour ce qui est des moyens, vidéo, Swell Kedir et Yann Bourdelat sont au rendez-vous. Le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Competition which will crown the best club in the world.
To have games here in Seattle in front of our fans, it's going to be an incredible experience.
À chacun sa Ligue des champions, c'est ce qu'on pourrait se dire. Les fédérations continentales ont la leur, en Europe, en Afrique, en Asie. Eh bien, la FIFA, là aussi, l'organisme qui gère les équipes nationales, un peu jaloux peut-être, sans doute, de l'énorme popularité de la Champions, comme on dit, européenne, a inventé pour cette fin de saison une nouvelle compétition, une nouvelle Coupe du Monde, comme il l'appelle, on peut aussi dire mondiale. Alors, non pas des sélections, mais un mondial des clubs. 32 clubs et les meilleurs, a priori, venus du monde entier, sélectionnés par la FIFA un peu à sa mode. Hein. On a le Real Madrid, on a aussi le champion en titre, le PSG champion donc d'Europe. On a le Al Ahly du Caire qui vient, lui, d'être détrôné et l'Espérance de Tunis, mais on n'a pas le Pyramide. On a Boca Juniors ou Flamengo pour représenter l'Amérique du Sud. Bref, ils sont presque tous là, sauf Rémi a commencé comme ça, et on le souligne, sauf le Barça, et même sauf Liverpool, c'est-à-dire le champion d'Espagne et le champion d'Angleterre.
Est-ce que du coup, parce que là, il y a plusieurs auditeurs qui posent la question, comme même romantique, pas de Barcelone, pas de Liverpool, pas d'Arsenal, pas de Manchester United, qui peut m'expliquer les critères pour participer à cette Coupe du Monde du club. Alors, et là, tous les regards se tournent vers Xavier Barré.
On a combien de temps? Non, mais en fait, cette compétition, elle a été montée un peu de briques et de broc par la FIFA pour des raisons d'abord mercantiles, des raisons de business. Et donc, ils ont commencé à faire leur casting en disant, voilà, on va prendre les champions de l'UEFA et de la CAF sur les quatre dernières saisons. Donc c'est pour
une
ça qu'on a
une espèce de péréquation.
Voilà, c'est pour ça qu'on a Manchester City.
De prendre mais, les
oui, à part que par exemple le Paris Saint-Germain, lui, il est qualifié parce qu'il rentrait aussi dans le quota des clubs européens les plus performants sur les dernières saisons, sachant qu'il y avait un plafond de deux clubs par pays. C'est pour ça qu'il y a le Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions et l'Atlético qui était devant le PSG, devant le Barça quand ils ont fait ce classement l'année dernière. Mais du coup, il y a l'Inter Miami qui n'a pas été champion des États-Unis parce qu'ils étaient en tête de la saison régulière du championnat des États-Unis dont ils ont été éliminés dès le premier tour de la phase finale. Comme il y a Messi, on a dit c'est bien de mettre l'Inter Miami. Donc c'est une compétition, une compétition à géométrie variable pour ce qui est des qualifications. Il y a effectivement des clubs très alléchants par leur palmarès. Comme je vous le disais, il y a deux clubs maximum par pays, mais il y a quand même quatre clubs brésiliens. Donc, vous voyez, c'est vraiment...
Il n'y a pas de critères, en fait.
Il n'y a pas de critères.
Il y a quatre clubs africains, on va en parler.
Il faut être ami de la FIFA.
Bah, le Brésil a 5 étoiles sur le maillot, c'est le seul pays, ça doit être ça. Non, je sais que ce n'est pas la bonne raison. Le format, en tout cas, offrira donc des face-à-face inédits, et c'est ce qui peut être intéressant, au moins pour les affiches et à regarder pour ce qui est du début. Après, on verra si on n'évolue pas vers la logique de toujours. Mais la question qu'on s'est posée en préparant cette émission, c'est est-ce que c'est une compétition à deux vitesses où la motivation n'est pas forcément la même? Alors, motivation, je parle. Mais alors, performance, par exemple, le PSG champion d'Europe, je veux être aussi champion du monde des clubs. Ou alors en rodage pour la saison prochaine. Peut-être penser au Real ou à City, ou alors se racheter d'une saison ratée, et je pense encore là, à ces deux clubs. Rémi, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette compétition, pour ce qui est de l'aspect motivation?
Moi, j'ai regardé les derniers matchs, il n'y avait pas sept clubs, pourtant il y avait de la motivation. Donc, je dis quand même qu'on peut dire que...
Les dernières éditions de Mondial des clubs?
Oui,
mais alors là, c'était en milieu de saison, c'était les champions uniquement de chaque continent et on avait une confrontation.
Et le champion européen attendait la finale.
Voilà. Là, c'est autre chose, c'est une autre formule.
Il arrivait en finale.
Et, bon, et cette année, ils ont même amélioré. Ils arrivaient en demi-finale, du Mondial des clubs ancienne formule, qui a été ressuscité cette année sous son précédent nom de Coupe intercontinentale. Et là, on a qualifié le Real Madrid directement pour la finale. Il n'y a même pas eu de demi-finale pour le Real Madrid. Il est arrivé, il a pu remporter.
Bon, là, il va falloir se battre.
Donc là, c'est des compétitions
matchs,
à géométrie variable.
Avec 32 équipes.
Ce n'est pas géométrie variable.
C'est l'ancienne formule de la Coupe du Monde.
Je voulais rester sur la motivation des équipes.
La motivation, avant d'arriver d'abord sur ça, je vais dire que c'est exactement comme le classement FIFA également, où généralement les équipes africaines se tapent toujours les costauds parce qu'on dit...
panier, chapeau 1, chapeau
2,
chapeau 3.
Donc tu ne peux pas dire que c'est maintenant que c'est à géométrie variable. Si Barça, chaque fois, est sorti de la Ligue des Champions, ne va nulle part. Donc c'est... une affaire très logique selon les normes de la FIFA. Et maintenant, quand on demande la motivation, j'ai dit il y a motivation. Dans la mesure où vois toutes
les... Je parlais d'une motivation différente selon les clubs. Par exemple, peut-être que les Africains, ils veulent briller et se dire « mais nous, on représente le continent », alors que les Européens qu'on connaît par cœur, il y en a qui se disent « bon, je prépare la saison prochaine ».
La motivation, elle est d'abord financière.
La motivation est d'abord financière.
Bon, on est d'accord avec Rémi, pour une fois.
Et quand il y a des finances quelque part, par exemple, je vous prends le cas d'Inter. Inter a besoin de l'argent. Il faut absolument aller... vers cette compétition. Atlético a dit c'est la compétition de l'année parce qu'ils ont une saison blanche complètement. Et bien évidemment aussi, Real Madrid sort d'une saison avec deux trophées qui ne sont pas majeurs. Le Real Madrid est en train de faire
des recrutements. Mais c'est des motivations différentes.
Donc c'est aussi une motivation. Donc c'est des vraies motivations.
Je n'ai pas dit que ce n'est pas des vraies. Je dis qu'elles sont différentes. Par exemple, le Real, c'est pour rattraper sa saison. L'autre, c'est pour gagner de l'argent.
Oui, mais en même temps, comme on dit toujours, il y a toujours... un bénéfice quelque part. Oui.
Non, mais c'est vrai que la moitié du plateau, c'est des clubs européens. 12 sur 12, enfin pas la moitié, presque la moitié, c'est des clubs européens.
2 fois 12, 32, non.
La moitié sont des clubs européens. Mais c'est vrai qu'en Amérique du Sud, en Afrique, ils y vont pour gagner cette compétition qui n'a pas vraiment d'histoire. Mais en Europe, ils y vont d'abord pour gagner de l'argent. puisqu'il y a plus de 100 millions d'euros à la clé pour le vainqueur.
Et qu'ils sont fatigués.
Et que même s'ils ont fait des saisons...
Mais ça, Xavier, ils ne nous l'ont pas dit.
Ouais, mais ça,
vous êtes joueur, vous avez envie de la gagner. Qu'est-ce que vous en savez qu'ils y vont que pour l'argent? Bah, ils veulent la gagner, cette compétition.
Ils veulent la gagner.
On a vu beaucoup de joueurs, notamment, et le syndicat des joueurs a relayé ses récriminations.
Personne ne joue dans le syndicat des joueurs.
Bah, la FIFPro, oui. Il y a eu Rodri qui a fait des déclarations sur ce sujet. Il y en a eu d'autres.
Que, effectivement, oui, ils l'ont dit, bon, ils pouvaient le faire parce qu'il était à l'infirmerie.
En trop, effectivement, il l'a dit avant de se blesser, cette compétition rajoutée, elle est en trop dans le calendrier actuellement.
Yoro.
En tout cas, en Afrique, les gens vont jouer cette compétition pour la gagner, parce que c'est une vitrine pour le football africain, surtout pour des clubs comme le WAC, comme Al Ahly, qui ont longtemps régné en Afrique, mais qui ne sont pas des clubs reconnus sur le plan international. Aujourd'hui, Ahly, tous les trophées...
Tout le monde dit que c'est l'équivalent du Real Madrid.
Exactement. Ils ont gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Ils en ont gagné...
4 sur 6,
exactement.
Dans les dernières. Et puis 12
aujourd'hui, le Wydad Athletic Club de Casablanca, moi, j'ai eu la chance de regarder un derby WAC Raja devant 90 000 personnes. C'est un football de dingue, mais c'est un football qui n'est pas reconnu. Et là, ils vont venir sur cette Coupe du Monde des clubs pour dire que de l'autre côté aussi, on joue au football et il y a de très bons clubs.
Robson D'Souza nous annonce qu'un club africain sera champion du monde. Il mise sur les Mamelodi Sundowns.
Très bonne équipe, hein. Très bonne équipe. Oui. Les Brésiliens.
Qui a perdu son titre aussi.
Ils ont perdu leur titre. Ils ont joué la finale. Ils ont perdu au match retour de Buzan.
Vous oubliez les Sud-Américains, là. Mais bon, c'est pas grave. On va en parler des Sud-Américains à travers les joueurs, évidemment. 32 clubs de tous les horizons. Et bien sûr, beaucoup de stars. Alors, qui peut-on citer? Si les places en tribune ne sont pas encore toutes vendues pour cette compétition aux États-Unis, les spectateurs auraient pourtant de quoi voir ou qui regarder. Évidemment, et on en parlera pour le match d'ouverture, il y a Lionel Messi qui est une icône du football. Mais Rémi, qui diriez-vous parmi les joueurs confirmés, quelles sont les vedettes pour vous?
La vedette, Mbappé. Il faut voir que seul le Real et peut-être aussi un club d'Amérique du Sud ont déjà fait le plein pour le premier tour de tous leurs matchs.
C'est vrai.
Quand vous parlez de Lionel Messi, Lionel Messi n'est plus une star là-bas. Puisque d'ailleurs, on se pose des questions, comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Et vous voyez, ils viennent d'être battus à domicile 3-0. Et qu'actuellement, ils sont, je crois, 4e au niveau de la conférence Est. La saison dernière, évidemment. La saison dernière également, ils se sont fait sortir dans des play-offs. Et donc, ce n'est plus exactement ceux-là qui sont des stars. C'est aujourd'hui Mbappé qui est la star qui attire des gens.
Moi, je crois qu'il y en a dans tous les grands clubs européens. Au Bayern, il y a Harry Kane. Vous allez au PSG, Ousmane Dembélé aujourd'hui est une star confirmée.
Désiré Doué, s'il est sur la lancée des
exactement.
Dernières semaines.
Varaskelia.
C'est franchement, tu es en train de dire ça. Cela veut dire qu'à une certaine période. Mais non, le PSG s'est découvert. On ne connaît même pas encore Doué. Mais cependant, Mbappé, c'est une star mondiale, déjà. C'est-à-dire que c'est un champion du monde qu'on a découvert depuis 17 ans. Harry Kane, c'est son premier titre qu'il vient de remporter tout simplement avec le Bayern.
Ça reste une star mondiale.
La méga star, ni en sélection, ni en ceci et cela. Mais par contre, j'ai dit bien que
Par exemple, Mbappé, qui est très bien conseillé, qui est un garçon extrêmement intelligent, a déjà fait sa promotion sur le marché américain depuis longtemps.
Oui.
Il y va souvent, il va assister à des matchs de basket. Il a fait la une du Time il y a quelques années déjà. Donc, c'est quelqu'un qui est connu par le public américain. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres footballeurs, puisque le soccer n'est pas un sport
si
majeur aux États-Unis.
Oui, mais si on aime le football,
il y a Antoine Griezmann dans ce genre-là.
Oui, hein, Griezmann.
Le basket, on l'a souvent vu en NBA.
Exactement, mais
matchs.
Quand même un cran un peu en dessous.
Mais des grands joueurs, après, on aura Erling Haaland, on aura Thibaut
bien
Courtois.
Bien sûr, mais après, la population des États-Unis qui aiment le football, c'est d'abord des latinos. Donc, ils vont être plus intéressés par des joueurs mexicains, brésiliens ou argentins ou d'autres pays d'Amérique latine que par des joueurs norvégiens, anglais ou italiens.
Est-ce que la question, c'est on aura des stars du football ou des stars reconnues sur le sol américain? Je crois que pour le premier, on a des stars dans tous les grands clubs. Aujourd'hui, vous prenez... Harry Kane, vous prenez Erling Haaland, c'est des stars du ballon rond. Et la Première Ligue est vraiment très, très suivie aux États-Unis. Ce n'est pas comme les autres championnats.
Oui, mais Erling Haaland, il faut l'enlever peut-être de cette liste rapidement.
Bon, ben, il sera là, Rémi. Alors justement, parlons du match d'ouverture quand même, dont sur lequel on pourrait s'étendre un petit peu. Ça sera dimanche dans la nuit, à l'aube de dimanche. Hein, ça sera à 2h du matin, heure française. Et ce sera avec l'homme aux 8 ballons d'or qui aura les honneurs de ce coup d'envoi. Ça sera sur sa pelouse en plus à Miami. Alors quel symbole, le champion du monde, Lionel Messi. Mais à 37 ans, 38 ans dans 15 jours, le joueur icône des saisons passées pourra-t-il, avec ses camarades qui ont à peu près le même âge que lui, on peut citer Luis Suarez, on peut citer
Alba,
Sergio Busquets, et même l'entraîneur qui, là vous y faisiez allusion Rémi, convainc moins que Tata Martino. Est-ce que c'est une équipe convaincante et qui peut-être va se faire battre par une équipe africaine d'entrée?
Il y aura sûrement plus de cohérence dans le jeu d'Al Ahly que dans le jeu de l'Inter Miami, parce que moi j'ai vu quelques matchs d'eux ces derniers temps. Effectivement, il y a le quatuor barcelonais, Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets et Lionel Messi. Mais bon, déjà, Messi a été parfois blessé ces derniers temps. Avec l'équipe d'Argentine, d'ailleurs, il a été remplaçant et remplacé lors des deux derniers matchs internationaux. Donc, il a 38 ans, vous l'avez rappelé, où il va les avoir bientôt.
C'est le symbole,
donc,
en fait.
Donc, en fait, cet Inter Miami, il faut rappeler que c'est David Beckham, le propriétaire.
C'est un club de retraités.
C'est un club surtout de showbiz. C'est un club de showbiz pour faire venir les stars qui habitent à Miami au stade pour créer un espèce d'engouement autour du club. La saison dernière, ils avaient surpris en terminant premier de la saison régulière, mais dès que sont arrivées les phases de play-off, les phases d'élimination directe, ils se sont fait sortir. Donc, cette année, c'est plus compliqué. C'est une équipe effectivement vieillissante, mais dans le cadre de ce mondial des clubs que Infantino veut clinquant pour les Américains, bon, bah, ils rentrent bien dans le décor. Pas un décor de compétition, mais un décor de showbiz, voilà. De festival.
Rémi,
juste sur Messi, non, mais ils ne sont pas tous d'accord, parce que Sidler Lungela vous remercie. Merci Annie de parler de Messi. Et puis juste derrière, les gens de Gabo qui envoient son message, vous en faites trop de promotion pour Messi.
Alors, moi, je ne fais pas la promotion de Messi. Simplement, il fait le match d'ouverture avec l'Inter Miami. Ouais. Donc, on parle de Messi parce qu'il est là, parce qu'il va avoir 38 ans, que ça nous étonne un peu, mais qu'il sera dans cette compétition. Après, il sera peut-être éliminé très vite. Et c'est ce que vous prédisez, Rémi, cet Inter Miami.
Sauf que Messi a ses amis de la FIFA. Ça, parce que c'est inconcevable ce qu'on est en train de voir là. Parce que quand vous regardez d'ailleurs les équipes qui sont, les nations qui sont dans le groupe de Messi.
Vous êtes un petit peu James Rodriguez.
Mais attendez, vous regardez quand même Porto, la dernière fois, c'est-à-dire que Porto, ce n'est pas un grand club européen, parce que Porto,
oui,
vous vous souvenez, en Ligue Europa, ils sont sortis dès les préliminaires par la Roma. Quand vous regardez, par exemple,
Porto
au niveau
et Palmeiras,
du championnat,
dans le groupe.
Donc, Palmeiras, ce n'est pas un grand club. Je crois qu'ils sont actuellement quatrième au championnat brésilien.
Oui,
ils sont quatrième.
Ils ont gagné plusieurs fois
la Ligue des
Champions. Non, la dernière fois, c'était en 2021.
Il y a deux ans.
La dernière fois.
Le casting est fait sur les quatre dernières saisons.
Et d'ailleurs, le public américain ne se trompe pas. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ce match-là était à 300 €. On est descendu à combien? À 48. Et finalement, on dit que la FIFA va même signer des accords, des conventions avec des universitaires.
Des matchs gratuits.
Pour qu'ils viennent.
C'est bien, c'est un match d'ouverture. Autant que le stade Chauvin, quand même, non?
Effectivement, Messi sera là. Il va obtenir 22 pénaltys pour pouvoir marquer. Donc, ce sera comme ça, comme à la Coupe du Monde, vous comprenez? Donc, il y a un proverbe africain qui dit: chaque vache lèche toujours son veau.
Bon. En tout cas, il sera là. Mais par contre, Al Ahly est là aussi. Alors, Al Ahly, ça fait peut-être partie des équipes qui viennent un peu pour rattraper la saison aussi, puisqu'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Là, ils viennent d'être éliminés en demi-finale.
Ils sont sortis cette année en demi.
Voilà.
C'est une superbe équipe. Malheureusement, je crois, l'intersaison, lors de l'été dernier, ils ont perdu pas mal de joueurs, dont Abdelmonem, qui a signé à l'OGC Nice, qui était le défenseur central, qui marquait des buts. Super joueur.
On garde une ossature égyptienne.
Ils ont d'ailleurs voulu qu'ils participent au
Mondial. Ils ont aussi en avance.
Malheureusement, ils s'est fait les croiser lors d'un match Nice-PSG, lors de la première défaite du PSG en championnat. Et Abdelmonem ne participera pas à cette Coupe du Monde des clubs.
Mais il y aura Trezeguet, non? Le Trezeguet égyptien.
Mohamed Trezeguet, effectivement.
A été rappelé.
Qui a été rappelé pour pouvoir participer à cette Coupe du Monde des clubs avec Ahly. C'est un grand club africain. Un club avec une histoire, un club qui connaît la rivalité, contrairement à beaucoup d'autres clubs africains.
Oui,
parce qu'entre Ahly et le Zamalek, ça se joue devant 120 000 personnes. C'est un club qui connaît cette adversité et qui peut faire le dos rond, contrairement à pas mal d'équipes européennes.
Puis il y a Pyramids maintenant en Égypte qui leur a pris le titre de champion d'Afrique cette année.
Ouais,
donc, et qui est aussi en
un autre club
égyptien.
Qui émerge en
donc,
Égypte.
Il y a effectivement une vraie. Mais la présence du Ali dans cette Coupe du Monde des clubs est tout à fait logique.
Donc il faudra mettre son réveil, d'après ce que je comprends, dans la nuit.
Le débat sur Messi, une petite réponse destinée à Rémi. Rémi est juste jaloux parce que son éleveur de chameaux dans le désert saoudien. Comprenez Ronaldo, ne jouera pas la Coupe du Monde des clubs.
Ce n'est pas une jalousie, c'est une logique. Si Ronaldo n'est pas là, qu'est-ce que Messi fait là? C'est-à-dire que vous n'êtes pas champion, c'est-à-dire que vous n'avez pas remporté.
Ils étaient prêts à le mettre au Wydad de Casablanca. Il y a quand même eu des tentatives, Cristiano Ronaldo,
quelqu'un qui vient de remporter la Ligue des Nations, qui marque des buts, et vous avez quelqu'un d'autre qui, bien évidemment, est devenu un Rastaman. Il fait le rap. Là-bas aux États-Unis. Donc, un rappeur est appelé maintenant. Je ne sais pas si c'est lui qui va faire la cérémonie.
Il va faire le spectacle.
C'est-à-dire, c'est lui qui va chanter.
Il n'est plus éleveur de chameaux parce qu'il a quitté l'Arabie Saoudite, officiellement en tout cas. C'est encore en négociation, on le sait. Après, alors, une fois que vous serez réveillé, vous pourrez redormir après ce match d'ouverture. Parce que vous savez, les États-Unis, il y a des fuseaux horaires, donc ça va un peu se balader. Mais en tout cas, à 18h, heure française, donc 16h en temps universel, il y aura Bayern Munich avec Thomas Müller. Moi, je pense que c'est une des stars de cette compétition face à Auckland City. Et puis, le champion d'Europe en titre avec son étoile sur le maillot, un certain Paris Saint-Germain, fera son entrée en lice. Là, ça sera à 19h en temps universel dimanche et ça sera contre l'Atlético Madrid. Alors, rappelons-nous que ces deux équipes se sont déjà affrontées. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était le 6 novembre dernier. En Ligue des Champions. Et c'était au Parc des Princes. Et les Colchoneros l'avaient emporté 2-1. C'était avant le PSG qu'on a vu vainqueur de la Ligue des Champions.
C'était avant ce déclic face à Man City.
Voilà. En 2025.
Même sur ce match, ils avaient dominé quand même toute la partie. Ils avaient la possession.
Ils avaient perdu.
Ils avaient perdu parce qu'ils n'avaient pas pu concrétiser les occasions qu'ils avaient.
Oui, bien sûr. Mais
et puis ce but, je crois que c'était à la dernière seconde même qu'ils prennent.
Oui, Correa.
Sur une ouverture de Griezmann.
De Griezmann. Et depuis, on a retrouvé un Donnarumma flamboyant parce que je crois que le but qu'il a encaissé, il en a sorti après à partir des huitièmes, beaucoup plus difficile.
Ça l'a secoué.
Paris Saint-Germain a aussi depuis pris Kvaratskhelia et a laissé filer Kolo Muani, donc ils ont des atouts offensifs.
Qui sera là, Kolo Muani?
Plus compliqué. Alors qu'il doit revenir à Paris, mais cette compétition étant placée sur un mois, sur la fin de la période des contrats, il faut savoir que les contrats des joueurs s'arrêtent au 30 juin, les contrats de prêt de joueurs s'arrêtent au 30 juin, là, une compétition qui part du 15 juin au 15 juillet. Donc forcément, il a fallu négocier cette situation.
Le roi Sané, il a signé en Turquie avec Fenerbahçe. Il a été reprêté Il a été reprêté pour jouer la Coupe du Monde des clubs au Bayern Munich.
Et Trent Alexander-Arnold, qui était libre, le Real Madrid a payé une indemnité quand même pour que Liverpool le libère 15 jours avant la fin de son contrat pour qu'il puisse participer à ce Mondial des clubs. Vous voyez, c'est un drôle de micmac.
Rémi, est-ce qu'on aura une revanche du Paris Saint-Germain? Ils vont démonter l'Atlético Madrid, les Colchoneros.
Je crois que quand vous
regardez... Parce que là, ils ont rodé leur style aussi quand même.
Ils ont rodé.
Et on les attend.
Et puis, il faut savoir que
J'ai
vu cette équipe d'Atlético se faire démonter par Benfica 4-0. 4-0. Atlético en Ligue des Champions.
Cet automne.
Donc, justement, quand vous regardez Atlético, ils ont commencé très bien la compétition. C'est la super grande équipe.
Vous avez été battu par Lille.
Attendez, par la suite...
Donc là,
l'Atlético se retrouve toujours sans un trophée et je ne vois pas
Rémi,
comment...
à ce niveau de la saison, est-ce que ça peut quand même changer beaucoup de choses? Parce qu'ils sont peut-être fatigués, mais en même temps, ils ont éprouvé leur style, leur entente, leur cohésion.
Vous parlez du Paris Saint-Germain.
Et puis Diego Simeone, il n'y va pas pour faire de la figuration, je pense.
Bien sûr, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que un cheval qui a soif ne boude pas l'eau sale. Mais pour l'instant, Diego Simeone, lui, il n'a jamais rien pu apporter. C'est un peuple désertique.
Je ne suis dire pas que, d'accord quand même.
Mais attendez, quelques finales par-ci, par-là.
Mais attendez, il ne fait que perdre. Depuis qu'il est là et tout et tout. Donc moi, je crois aujourd'hui,
il ne va pas battre
le Paris Saint-Germain.
Pour le PSG, la question, c'est de savoir s'ils vont réussir mentalement à se remettre dedans pour
les festivités.
Voilà, après les festivités. Là, ils ont relâché, ils ont fait la fête.
Ils ont peut-être envie de
jouir
de leur titre.
C'est l'aubaine des clubs en reconstruction comme le Real Madrid ou Manchester City ou clubs d'autres continents, notamment
City
d'Amérique
qui a recruté
du Sud et
à tour de bras là, pour le Mondial.
C'est que ces clubs européens qui arrivent à la fin de saison très chargés et comme vous l'avez dit, avec des festivités qui les ont un peu détournés de leur entraînement quotidien, ils vont être rincés. Moi, je vois pas comment le PSG, l'Atlético dans son style, même à un degré moins de Chelsea ou encore le Borussia Dortmund, voire même le Bayern, vont réussir à enchaîner tous ces résultats après avoir eu un objectif dans la saison qu'ils ont atteint ou pas, avec les mêmes joueurs, certains en partance. Ça paraît très compliqué.
Que peut-on attendre, par exemple, d'équipes qui sont finalement en transition et en reconstruction ? Frédéric le signalait, ses recrues du côté de City ou du Real Madrid. Xabi Alonso, il débarque. Alors, évidemment, il a des stars et il a des joueurs doués. Mais qu'est-ce qu'il va en faire, lui, de cette compétition ?
Parce que déjà, au Real Madrid, il ne faut pas oublier que dans un coin de la tête de certains dirigeants, Mbappé peut être ballon d'or. Donc, cette compétition, ils vont la jouer à fond.
On va en parler après, là.
Parce qu'ils veulent justement lancer leur saison. S'ils gagnent cette Coupe
du
Monde...
Ah, ils lancent leur saison prochaine.
C'est ça qu'ils cherchent, lancer leur
saison. Avec un nouvel entraîneur.
Man City avec de nouveaux joueurs, parce que le cycle, il démarre maintenant.
Le cycle démarre maintenant, mais...
Alors justement, les amis, moi, je vais vous poser cette question. Oui, il y a un total décalage, parce qu'on commence la saison en juin. Alors qu'avant, on l'a commencé en juillet avec les regroupements et en août avec le début des championnats. Moi, je vais vous poser la question, je vais commencer par vous, Rémi. Est-ce que c'est un moment crucial pour le Ballon d'Or ? Parce que rappelons que le Ballon d'Or, on a su il y a peu que France Football allait publier la liste le 7 août. Ils ne respectent même pas les vacances de Radio Foot. Nous, on sera en vacances. La liste des prétendants sera publiée et la récompense sera donnée le 22 septembre. Pour figurer sur cette liste et voir après pour travailler et les clubs en arrière et travailler à la tête des votants, est-ce que ça va être crucial pour vous, cette compétition ?
Elle est cruciale. C'est une compétition qui est majeure, c'est une compétition qui regroupe les meilleures équipes et c'est une compétition qui sera visible partout à travers le monde. Donc aujourd'hui, bien évidemment, nous sommes à moitié saison parce qu'il y a eu la Ligue des Champions qui a d'abord départagé une première des choses. Cette première des choses, on a vu le Paris Saint-Germain remporter cela, mais cependant, maintenant on va avec d'autres clubs à travers le monde. Donc moi, je crois que cette compétition est essentiel et primordial. C'est vrai que Mbappé, par exemple, il est déjà soulier d'or, c'est-à-dire européen, il est déjà pichichi au niveau de l'Espagne. Donc, sur le plan individuel, sans pour autant oublier qu'il a quand même remporté déjà 2 trophées. Et bien évidemment, quand on va dire le mondial des clubs, c'est un trophée international, c'est un trophée mondial. On ne va pas le négliger, on ne va pas dire on accepte la Coupe du Monde, c'est une grande compétition, mais le mondial des clubs, ce n'est pas une grande compétition, alors que tous les grands joueurs sont là.
Parce que le football n'a pas de mémoire, en fait. Aujourd'hui, les gens vont oublier tout ce que Dembélé et autres ont fait durant cette Ligue des Champions. C'est le dernier qui parle qui a raison. Imaginez-vous Mbappé, tous les matchs, c'est doublé, triplé. Il gagne en finale Man City ou le Bayern ou le PSG en mettant 3 buts. Ben, ça pèse pour
le
Ballon d'Or.
C'est janvier, février, mars.
Il ne faut pas oublier que ce n'est pas les gens qui votent, ce n'est même pas les joueurs. Mbappé, d'ailleurs, je crois, l'a rappelé récemment en conférence.
Mais les journalistes,
c'est les humains. C'est les jurés de France Football.
Oui, mais ils sont des journalistes, ils restent des humains.
Ce sont des confrères, absolument. Ouais. Et ces confrères, j'ai trouvé qu'ils ont fait preuve ces dernières années, notamment l'année dernière, de beaucoup d'esprit critique, de recul, de capacité de jugement par rapport aux événements, sans se laisser influencer. Ce qui n'a peut-être pas été le cas par le passé. Je me souviens de Gérard Renault, l'ancien directeur de la rédaction de France Football, qui avait dit que certains jurés manquaient de la culture du Ballon d'Or. Et je pense que les dernières années ont fait que ces jurés ont pris conscience du rôle qui était le leur. Alors, Yamal Ousmane Dembélé, pour moi, le match, il est là, sur la saison qui
s'achève. Mais pourquoi vous dites même ça? Mais
sur la saison de
champion. Pour
moi, la saison et la sérénité que j'affiche contraste évidemment avec l'emportement de Rémi Ngono, qui roule pour un joueur du Real Madrid, quel qu'il soit.
Il n'est pas du Real.
Il y a quelques mois, c'était Vinicius, maintenant c'est Mbappé.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire une publicité, une campagne?
C'est les jurés du Ballon d'Or qui vont décider. Et ils sont suffisamment matures, ils sont suffisamment réfléchis pour savoir pour qui ils vont voter. Et bon, c'est ça le système qui a
démontré. Avant, je vais dire, c'est sur le plateau, tu influences. Tu influences les journalistes qui nous écrivent partout en Afrique. Oh, il y a mal. Mais c'est Rafinha qui a porté le Barça. Qu'est-ce que vous êtes en train de
Ils voteront
là
pour Rafinha.
Mais vous ne parlez même pas de lui.
Mais ce qu'il dit déjà est tellement vrai que la Liga a élu Rafinha comme étant le meilleur joueur. Lui, il n'a pas été meilleur joueur de la Liga. Il n'a pas été meilleur joueur de la Ligue des Champions. Même chez les jeunes de la Ligue des Champions, c'est Doué qui a été élu meilleur joueur.
Mais
donc,
parce qu'ils
vous voulez que Yamal soit Ballon d'Or.
Voilà.
Moi, je comprends.
Les jurés du Ballon d'Or vont décider.
Est-ce que nos auditeurs ont déjà un nom pour le Ballon d'Or?
C'est plus entre Xavier et Rémi que ça se joue.
Le Ballon d'Or.
Il a ses défenseurs, Rémi. Il ne dit pas que des bêtises. Il n'est pas tout le temps hors sujet, parce que certains considèrent qu'il est tout le temps hors sujet. Et puis là, il y a quand même un proverbe qui a fait mouche, parce que c'est vrai que parfois, certains proverbes, on a un peu du...
La vache qui lèche son veau.
Un cheval qui a soif ne boude pas l'eau sale, là, ça a cartonné. Hein. Il a plus, celui-là.
On verra bien. C'est une compétition donc cruciale pour le Ballon d'Or, mais qui se jouera sans Yamal, sans Salah, sans CR7, sans Lewandowski. Donc, il y aura une grosse surprise quand on verra la liste le 7 août prochain. Réveillez-vous donc et vous verrez des matchs inédits, des beaux matchs. On en parlera parce qu'il y aura des confrontations assez étonnantes ces prochains temps entre des clubs du continent africain et d'Amérique du Sud. En tout cas, on suivra ça pour vous et vous aurez le privilège de suivre ce mondial des clubs grâce au Café des Sports et à Radio Foot. Mais pour l'instant, on va vers le sud de l'Italie. Kevin De Bruyne, le maître à penser du jeu de Pep Guardiola, quitte son club du nord de l'Angleterre pour le sud de l'Italie. Un citizen, bientôt napolitain, il suffit d'une réponse médicale pour qu'il change de club. Il jouera donc toujours, vous l'aurez remarqué, en bleu ciel. On passe du sky blue au gli azzurri, on a appris à le dire. Et en plus, il va chez le champion d'Italie sacré il y a quelques jours à peine. Il a surtout été reçu comme une star déjà à Rome, où il faisait escale. On est venu, on l'a applaudi, on l'a encouragé. Alors imaginez ce qui va se passer à Naples, mais je vous laisse imaginer en tout cas. Benvenuto, Kevin, le milieu de terrain. Ce sont 422 matchs pour 108 buts avec Manchester City, plus, je vous le rappelle, si vous l'avez oublié, 6 titres de champion d'Angleterre et une Ligue des champions. Il va retrouver un camarade de sélection, Romelu Lukaku, son complice en attaque, et se mettre donc dans le sillage d'autres Belges qui ont marqué l'histoire de ce club, et notamment Dries Mertens, qui a été meilleur buteur. Xavier, est-ce que c'est presque logique qu'un Belge aille à Naples ?
Comme il y a un Écossais, McTominay, comme il y a un Camerounais.
Par rapport à la filiation, on en a trouvé plein, hein, Dendoker, Crasson.
Oui, après, c'est une question d'opportunité. Il était libre, il était en fin de contrat. Il n'avait pas envie d'aller en Arabie Saoudite ou aux États-Unis tout de suite. Il voulait rester sur le continent européen. Naples sort d'une saison quand même assez incroyable avec ce titre de champion. Ils ont rattrapé puis dépassé l'Inter de Milan dans la dernière ligne droite. Et surtout, Naples est en Ligue des Champions la saison prochaine, alors qu'ils n'étaient pas européens cette saison. Donc, ils ont besoin de renforts. Ils ont besoin de joueurs d'expérience pour bien négocier de cette Ligue des Champions. Kevin De Bruyne, c'est une opportunité incroyable pour les deux, pour le club comme pour lui. Il a la possibilité effectivement d'aller dans un club avec un très fort soutien populaire pour finir sa carrière européenne. Et dans un
ça
club
sera
qui
une
a
ambiance
besoin...
différente de l'Etihad Stadium.
Oui, complètement. Et dans un club où on a besoin de lui. Parce que si vous avez bien regardé Naples jouer cette saison, il manquait souvent ce coup de génie, surtout depuis le départ de Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain.
Alors moi, j'ai une question pour Yoro. Il n'a joué que 15 matchs titulaires la saison dernière, Kevin De Bruyne. Certes, c'était à cause de blessures, mais il a 33 ans. Il est quand même fatigué, peut-être. Ou alors il s'est reposé la saison dernière dans une année pourrie de Manchester City.
De toute façon,
City.
À Nice, c'est la politique de la Serie A ces 10 dernières années. Ils prennent beaucoup de joueurs en fin de...
Ils n'ont rien contre les vieux.
Ben voilà, ils avaient recyclé Tevez qui quittait Man City. Ils l'ont fait avec Dzeko. Là, ils le font avec De Bruyne. Et souvent,
non, puis
ça marche.
Les joueurs italiens, hein, on a parlé d'Acerbi avec
Aujourd'hui, j'imagine j'imagine un peu le milieu de cette équipe du Napoli avec Zambo Anguissa, s'il reste bien sûr Lobotka et lui De Bruyne, ça va faire quand même une triplette extraordinaire. Après, là où j'ai
McTominay peur... McTominay aussi.
Il y a McTominay qui
qui va s'entendre avec Lukaku.
De Bruyne, Lukaku en sélection, ils en ont planté des buts.
Mais mon
deux.
Problème, est-ce que De Bruyne sera compatible avec le football d'Antonio Conte, qui demande beaucoup d'énergie, qui n'a rien à voir avec celui de Pep Guardiola?
Votre avis, Rémi, est peut-être un proverbe.
vous savez, j'ai toujours dit, je ne suis pas contre des joueurs qui ont un certain âge, la preuve.
Bien sûr.
C'est que Cristiano Ronaldo évolue encore au haut niveau. Mais le problème, quand je dis toujours aux gens, c'est le domaine athlétique. C'est-à-dire que quand vous voyez le vieux Modric, il se blesse rarement. Or là...
Parce qu'il joue rarement aussi.
Non, il joue beaucoup. Même en sélection, tu as pu voir...
Il est plus âgé que De Bruyne quand même. Il est 33 ans et gagné la Ligue des Champions,
Modric. Mais vous vous rendez compte, quand vous regardez Modric, cette saison... Vous vous rendez compte que sa blessure, c'est 44 jours. Et il est blessé où ? Lésion du muscle fléchisseur. Et vous vous rendez compte que la plupart des buts... D'ailleurs, il a marqué des buts...
Non, mais parlez-moi de Kevin De Bruyne, Rémi.
Je parle de Kevin De Bruyne.
Ah, vous avez
le docteur
dit...
Ngono a un diagnostic à donner.
Je parle de Kevin De Bruyne.
Le docteur Ngono est en consultation.
Matchs. Certainement, 44 matchs. Et il est blessé sur le muscle fléchisseur. Une lésion. Or, la puissance de son tir, par exemple, vous le connaissez, il a d'ailleurs marqué 35% de ses buts à l'extérieur de la surface. Donc, Pep Guardiola a vu qu'il n'a plus la puissance de ces tirs-là. N'oubliez pas qu'il sortait aussi d'une blessure aux ischios de 128 jours. Donc, quand un joueur de cette envergure-là va dans un championnat, tu viens de le dire, de le souligner, justement, Italie, ça bagarre, ça bataille dure. Il faut une puissance athlétique, physique. Il faut être en bonne santé. Bon, c'est vrai, il va faire de bonnes choses là, on dit, voilà.
Le rythme de la Serie A est en dessous de celui de la Première Ligue. Il n'y a pas la même intensité, Rémi. Il n'y a pas la même intensité.
Le bouc peut mentir qu'il est jeune, mais... Ses cornes le trahissent.
Non, mais moi, je valide la démonstration de Rémi. Lundi, c'est génial, De Bruyne qui part à Naples, parce qu'on a en tête tout ce qu'il a fait à City, mais pas cette saison, les années d'avant. Mais là, il donne plutôt l'impression d'un joueur qui est au bout du rouleau, qui physiquement n'y arrive plus. Il y a aussi le risque que ça fasse pchit, hein, ce transfert. C'est pas gagné d'avance.
C'est la grande question.
Même si légende Glado nous écrit, Kevin est un grand géomètre du terrain.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on trouvait intéressant en tout cas dans ce sujet, c'est que justement, pour l'instant, il n'a pas choisi l'Arabie Saoudite, où on a dû lui faire un pont d'or, on imagine, ou cette région-là, ou la MLS, où forcément, même s'il était allé à l'Inter Miami ou je ne sais où, on l'aurait accueilli aussi. Et ce dernier défi, c'est peut-être de trop, Euro ?
Moi, je ne crois pas, parce que pour quelqu'un qui aime le football comme Kevin De Bruyne, parce que son football...
Il y a une vision en plus.
Le football qu'il pratique, c'est quelqu'un qui adore le jeu. C'est un esthète. Il ne va pas aller en Arabie Saoudite, qu'il reste encore sur le vieux continent. Et il a encore quelques passes et quelques crochets à nous faire pour qu'on puisse vibrer. Je ne sais pas s'il va réussir, mais c'est un bon choix.
Vous voulez y croire.
Il ne va pas à Naples pour jouer contre Lecce, Côme ou Venise. Il y va pour la Ligue des Champions. Et donc, c'est Antonio Conte qui va devoir justement gérer son effectif pour que, lors des matchs de Ligue des Champions, ces top joueurs, à commencer par De Bruyne, soient performants.
Mmh. Bon, on suivra Kevin De Bruyne. Il ne sera pas non plus au Mondial des clubs. Hein.
Non.
Le Napoli n'y est pas, s'il est champion en titre d'Italie. Mais bon, les invitations se font à l'avance. Encore une petite réaction.
Non, mais là, ils s'en remettent pas, hein, l'explication.
Sur le cheval qui boit l'eau sale.
L'explication de Rémi est phénoménale sur De Bruyne. Non, là, vraiment, il chapeau.
Oh, Rémi, vous cassez encore la baraque, c'est fatigant. Allez, on continue, on va vers les cartons.
Carton jaune.
Il sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Et je vous invite à suivre avec attention cette séquence des cartons sélectionnés par David Finzel. Dès le premier carton, vous allez voir, on est dans une jolie ambiance.
Bonsoir Café des Sports.
Bonsoir Café des Sports.
Bonsoir Rémi Ngono.
Bonsoir Rémi Ngono.
Bonsoir Maman Annie.
Bonsoir Maman Annie.
Bien, moi c'est Daniel. Mon carton, il est vert. Vert comme la couleur des feuilles de cette table sous lequel nous sommes assis. Je suis avec mes filles et nous voulons adresser un carton vert à Cristiano Ronaldo. Les filles, tout le monde, Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
Le meilleur joueur.
Le meilleur joueur.
De tous les temps.
De tous les temps.
Bien, Xavier Barré, tu vois, Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Même les enfants le reconnaissent. Et les filles, tout le monde répond, bonne émission à vous.
Bonne émission à vous.
Pincez tous vos corps, frappez les balles à fond, le lion rouge a rugi. Bonsoir, bonsoir, il y a du foot international, moi c'est Ousmane Camara, Sénégalais vivant en Guinée-Conakry, je donne un carton vert au lion de la Teranga. Imaginez, première nation africaine à battre l'Angleterre. Ah, quel match, quel match, quel match.
C'est pas sur le camp depuis les États-Unis d'Amérique. J'adresse un carton vert au latéral gauche des Lions de la Teranga, El Mali Diouf. Wow, frère, tu nous as émerveillés par ton talent, ton débauché, tes centres millimétrés. Franchement, on est content. Continue sur cette lancée et Inch'Allah, bientôt tu vas signer en Premier League, peut-être à Brighton. Mais ne baisse pas les bras, frère. Franchement, chapeau.
Salut Radio Foot, moi c'est Shadrack Assongo depuis Lubumbashi. Carton vert au Léopard qui ont bâti en amical les Aigles du Mali et les Madagascar. Notre objectif, c'est la Coupe du Monde. La RDC revient.
Salut Café des Sports, c'est Diallo Yagouba Paraol depuis Paraol Wien Toussoukou en Guinée. Pour cette semaine, je donne un carton vert à toute l'équipe du Portugal pour leur victoire en Ligue des Nations et surtout à Nuno Mendes qui a fait passer à Lamine Yamal une soirée cauchemardesque dans cette finale de la Ligue des Nations. Je leur souhaite une bonne chance pour la suite. Merci.
Bonjour Radio Foot, c'est Emad Badjata depuis le Congo Brazzaville. Carton vert à Mamadou Sakho d'avoir dénoncé le manque de soutien des consultants français, des journalistes français, des anciens joueurs français envers Dembélé. Quand on regarde la saison 2004-2005, mais Dembélé est au-dessus de tous les joueurs. Il a réalisé une saison magnifique. Il a pratiquement tout remporté, tout. Mais on ne comprend pas comment il n'y a pas de soutien.
Bonjour Radio Foot. Bonjour Rémi Ngonou. Je m'appelle Ngoï Ravi depuis Congo Brazzaville. Je donne un carton vert à Nuno Mendes pour sa finale de la Ligue des Nations. Il a été élu homme du match. Un but. Et une passe décisive. Au revoir et à bientôt.
Salut, salut, c'est Barsouleiman Dongoltouma depuis la Mauritanie. Aujourd'hui, je donne un carton rouge aux autorités guinéennes d'avoir refusé le rassemblement de Sili National pour le trêve international en soi disant que ça n'a aucune importance, c'est une gaspillage d'argent. C'est honteux. Vraiment, carton rouge à eux. Le Sili National appartient aux Guinéens.
Salut le Café des Sports, c'est Tefaya Banané depuis Aix-en-Provence en France. Je donne un carton vert foncé à Luis Enrique pour son succès avec le Paris Saint-Germain. Il y a encore un an, quand on lui a posé la question sur ses choix, il a répondu que vous ne pouvez pas comprendre et on lui a traité de coach arrogant et orgueilleux. Aujourd'hui, le résultat est là. Bonne carrière à lui avec le Paris Saint-Germain et bonne émission à tous.
Bonjour Radio Foot International, moi c'est Yannick Missibé, un centrafricain depuis le Mali au Togo. Aujourd'hui je donne un carton vert à tous les réalisateurs et les présentateurs de Radio Foot International pour votre magnifique travail et je suis très content de vous. Et Madame Annie, vous êtes en train de rendre ma mère très 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 heureuse. À chaque fois que vous êtes sur le plateau, ma maman va refuser d'aller aux cuisines pour préparer pour nous jusqu'à ce que l'émission finisse d'abord avant qu'elle parte préparer pour nous. Vous êtes en train de rendre ma mère très heureuse et je suis content et bon boulot et bonne continuité à vous.
Bon ben j'en profite pour embrasser toutes les mamans qui aiment regarder l'émission et puis s'il veut aider sa maman en cuisine, ben il a le droit aussi notre auditeur.
Ben, il aime peut-être le foot. Hein,
mais... hein ouais, je crois qu'ils aiment tous le foot là et c'est fantastique au Togo et ailleurs. Moi j'ai bien aimé le carton contre le Sili parce que c'est vrai que de ne pas organiser des matchs amicaux alors qu'il y en a d'autres qui ont remporté des matchs ou qui, en tout cas, se sont essayés à ça. C'était très bien. Les cartons, on va commencer par Rémi parce que je crois que c'est le plus méchant aujourd'hui.
Rouge.
Avec Rémi.
Rouge au FC Barcelone. Vous vous rendez compte que le Real a déjà enregistré des joueurs, tous les clubs enregistrent les joueurs, mais Barça, c'est qu'on a dragué tel, on a fait bisous à tel, on a encore voulu faire l'amour à tel, et finalement, aucun joueur ne vient. Et cependant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils disent que pour qu'ils puissent recruter des joueurs, ils doivent se débarrasser de leurs propres joueurs encore. Ter Stegen part, il ne part pas, il refuse. On chasse Ansu Fati. Monaco, il dit seulement que repars là-bas chez toi. Il chasse encore tel autre. Il y a un gars qu'on appelle Oriol Romeu. On ne savait pas là où on a pris cet ancien combattant. Lui aussi ne parle pas. Donc finalement, le Barça se retrouve avec les mêmes joueurs qui sont dans le même effectif et il cherche maintenant à tabasser des joueurs pour qu'ils quittent le club. Comme le dit un proverbe africain, fouette l'âne pour qu'ils réfléchissent.
Sauf que Rémi, le mercato, il va durer pour le Barça puisqu'ils n'étaient pas pressés.
Ils sont quand même champions d'Espagne, vainqueurs de la Coupe, demi-finaliste de la Ligue des Champions.
Oui, oui, bon, c'est vrai. Allez,
il
n'est
pas si mauvais que ça, l'effectif.
On vous accorde ça.
Jaune, oui, jaune à l'Arabie Saoudite et aux dirigeants du football saoudien qui ont voulu faire un championnat avec plein de stars venues d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Asie, de partout, et qui ont oublié leur équipe nationale. Moralité, la sélection de Hervé Renard a été battue à Jeddah en match de qualification.
Ceux qui avaient battu l'Argentine ?
Oui, ouais. Ils ont été battus à Jeddah avec 10 joueurs dans le groupe sur les 16 alignés qui étaient à la Coupe du Monde, donc qui avaient joué contre l'Argentine notamment. Ils ont été battus par l'Australie lors d'un match décisif pour la qualification. Et donc, ils se retrouvent en barrage. Ils ne sont pas complètement éliminés, mais ils se retrouvent en barrage pour la prochaine Coupe du Monde, alors que l'Australie s'est qualifiée. Parce que tout simplement, quand vous regardez ces joueurs, bah, aujourd'hui, ils ne jouent pratiquement plus dans les clubs saoudiens.
Il y a
8 étrangers.
Et par exemple,
à Cristiano Ronaldo, à d'autres. Le gardien titulaire de la sélection, Nawaf Al-Akidi, par exemple, qui était à Al-Nasser, le club de Cristiano Ronaldo, ils ont dû le prêter en cours de saison à Al-Fateh, un autre club pour qu'il joue, parce que tout simplement, eh bien, il ne jouait plus dans son club. Donc attention messieurs, parce que l'Arabie Saoudite était à la Coupe du Monde en 1994 aux États-Unis, ils avaient d'ailleurs fait une très bonne performance. Ils y seront peut-être pas en 2026.
Ouais, mais ils y seront en 2034 apparemment. Ouais. Il y a du travail. Yoro, la couleur de votre carton?
Vert. Vert comme la première couleur de notre drapeau national pour les Lions du Sénégal. Première nation africaine à avoir battu l'Angleterre avec la manière 3-1, Rémi. Vous savez, nous sommes le pays de l'équité. On était face à 3 lions, les Three Lions, et chaque lion a eu un but. Ça fait 3-1.
c'est bien. En plus,
vous êtes déjà en train de côtoyer un peu le Cameroun, tu sais, première équipe à battre l'Argentine, tu vois.
Et Yoro, de ce qu'on voit, la relève est assurée quand même.
Ah bah oui, dans cette équipe, il y a Diouf, il y a Lamine Camara, le deuxième Lamine Camara de Berkane.
Ils sont bons.
On a de très bons joueurs.
Vous avez d'ailleurs battu, il faut aussi souligner que vous avez battu le Brésil, vous avez battu la France. Bref, bravo pour le
Frédéric
Sénégal.
Carton rouge à la FIFA et à Gianni Infantino, parce qu'on est en 2025, on nous parle de parité, il faut développer le sport féminin, le foot masculin. Et là, et donc, il nous propose, on en a parlé pendant toute l'émission, une Coupe du Monde des clubs masculins. Mais pourquoi pas une Coupe du Monde des clubs avec des équipes féminines? On aurait pu mixer les deux, là, peut-être. Il fallait peut-être y réfléchir. Enfin, moi, je plaide pour une Coupe du Monde des clubs féminins.
Je pense que Megan Rapinoe aurait adoré.
Surtout aux États-Unis. On aurait adoré vous entendre. Féminin.
Le carton, eh bien, on revient au Sénégal. Le carton de Radio Foot, il est vert et il va aux Lionceaux. Ou plutôt, à des futurs Lionceaux, qui sait, de la Teranga. Au lendemain de la fête de la Tabaski, eh bien voilà, dans les quartiers du Sénégal, les enfants s'organisent en tournoi, ils font des compétitions, ils représentent l'avenir du football. Et regardez comme ils sont mignons. Et regardez, il y en a même qui sont déjà des héros là-bas. Ça va vous énerver, Rémi, regardez. Voilà, Lamine Yamal, déjà sur les maillots de ces gamins qui
Rémi
courent
Yamal
dans les rues de Saint-Louis du Sénégal. Merci au professeur Moustapha qui nous a envoyé les images. On vous embrasse tous, très bon week-end et à la semaine prochaine.